Débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel. Donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduit au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance. C'est nous tous qui produisons tout. Et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants. Débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel. Donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts. Il faut payer, ses juges s'apicaillent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi. C'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants. Débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel. Donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien. Nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien. Ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants. Débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel. Donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans dû ni mettre ni publicité. C'est Jeudi Noir, donc, qui commence pour parler d'un bouquin de Christine Ross qui s'intitule L'imaginaire de la commune et qui est édité à chez La Fabrique, donc des éditions d'Azan. Et ce soir, donc, on va en parler avec un connaisseur, peut-être même un spécialiste. Ouh, il a mis ses lunettes là. Il a mis ses lunettes pour parler devant le micro, donc ouais. Quentin et Jean-Mathias. Donc, alors eux, c'est des savants. Hein. Moi, je vais faire l'idiot, ouais. L'idiot utile.
Traduisez, c'est ceux qui ont lu le livre, quoi.
Voilà. Ce soir, donc, c'est un joli livre. Hein. Je peux vous en parler longuement parce que il a une couverture que je qualifierais de violette. Voilà, avec un petit titre, donc c'est l'imaginaire de la commune, et c'est entouré de rouge, enfin rouge un peu passé. Ensuite, bon, Jean-Mathias est prêt à me taper, donc j'arrête. Voilà, donc c'est José qui sélectionne la musique, comme toujours, et vous venez d'entendre un morceau de René Binamé qui s'intitulait, enfin qui s'intitule toujours, La Révolte. Et évidemment, je pense qu'il y a un rapport avec la commune. ça me semble assez logique. Voilà, donc je sais pas lequel d'entre vous veut prendre la parole en premier, ne vous battez pas. Donc c'est Jean-Mathias qui va ouvrir les hostilités, je pense. À toi, Jean-Mathias.
Ouais, alors d'abord peut-être il y a deux mots sur notre invité de ce soir, donc Quentin de Luermoz, que tu as présenté comme un expert de la commune, et a raison, puisque il travaille à l'université de Paris 13, Ville Tanneuse, et puis Quentin, t'as pas mal travaillé sur cette période-là, et puis sur un tas d'autres choses très intéressantes, notamment sur l'histoire de la police. C'est toujours bon d'en savoir le plus possible sur cette institution, voilà, que nous saluons, n'est-ce pas? Alors ça, c'est pour notre invité. On t'avait invité dans l'émission il y a déjà quelques années. C'était au moment de la commémoration de la commune. Donc, bah, si je calcule bien, ça doit faire 4 ans. Et aujourd'hui, on tenait à t'avoir pour discuter un petit peu de ce livre de Christine Ross, là, donc qui est paru cette année. Alors, je vais pas, comme Michel trouve que je parle très longtemps, je vais faire des phrases courtes, mais je vais quand même dire deux mots sur l'auteur et sur le projet du bouquin, un petit peu pour que les auditeurs sachent un peu où on met les pieds ce soir. Alors, Christine Ross, on en a déjà parlé aussi dans l'émission, s'il y a des habitués. Elle est l'auteur d'un... Alors, elle travaille en littérature comparée à l'Université de New York, donc c'est pas une historienne. Mais elle s'intéresse beaucoup à la France, à l'histoire de France, et en particulier à l'histoire littéraire. Alors, deux périodes fétiches chez elle, la deuxième moitié du 19e, et puis mai 68. Et elle a publié un certain nombre de livres traduits en français, desquels on avait parlé, à propos desquels on avait parlé là dans l'émission, notamment sur celui sur mai 68, et aussi, il me semble que c'était l'année dernière, un livre qui était sur Rimbaud et la Commune. Et alors, dans ce livre, là, sur l'imaginaire de la commune, on retrouve un petit peu ce qui fait sa marque de fabrique, c'est-à-dire on va appeler ça une méthode, même si le mot est peut-être un petit peu fort, et puis un champ de recherche un peu inhabituel, c'est-à-dire que c'est pas une historienne, elle fait pas une histoire de la commune. Ce qui intéresse Christine Ross, c'est au fond d'essayer d'expliquer un petit peu le paysage imaginaire ou le paysage mental, pourrait-on dire, qui se met en place autour d'un événement politique remarquable, alors que ce soit mai 68 ou ici la commune. Et ce qui l'intéresse, donc, c'est aussi bien des figures et des témoignages de participants ou d'acteurs de l'événement. Donc là, elle cite un certain nombre de participants de la commune, mais aussi des auteurs. Donc c'est une approche très littéraire, dans lesquelles elle souhaite ou elle espère en fait trouver finalement des perspectives un petit peu nouvelles sur l'événement, de manière à reconstituer finalement ce qui fait le spectre, quoi, de l'événement, ou son contexte imaginaire, voilà, en amont et en aval. Donc elle s'intéresse rarement à la chronologie, c'est-à-dire qu'elle cite très peu d'événements factuels. Elle en cite quelques-uns, bon voilà, mais qui sont connus. C'est pas ça trop qui l'intéresse. Elle cherche une espèce de découpage, on pourrait dire flou, pour pas dire vague, mais ça on en parlera peut-être
découpage
après.
Découpage vague.
Une espèce de découpage vague, c'est oui, c'est un petit peu ça. Oui, c'est une notion étonnante, mais il me semble que ça correspond assez à ce qu'elle essaye de faire, c'est-à-dire essayer de voir finalement quel type de rêve, puisque c'est le mot qu'elle emploie, hein, elle cite Lefèvre, quel type de rêve précède et succède finalement à un événement, dans la mesure où elle pense que c'est de ce côté-là qu'il faut aller regarder si on veut comprendre finalement quel est le sens d'un événement à travers les âges, pourrait-on dire. Alors ça, c'est la méthode et l'objet de recherche. Après, il y a une thèse politique là-dedans, qui est très présente, qui est annoncée dès le départ. Elle cherche, en fait, à défendre l'idée, bon, qui là non plus n'est pas nouvelle, mais bon, après tout, il peut être respectable, l'idée que finalement, la commune est un épisode qui permet de mettre en place une conception politique qu'elle appelle le communisme anarchiste. Donc une branche à la fois du communisme et de l'anarchisme. Bon, on y reviendra dans le cadre de la discussion. Et donc elle essaie une espèce de mix un peu de tout ça. Alors comment s'est construit ce livre ? C'est construit essentiellement autour de trois personnages, on pourrait dire, trois figures, alors qui sont effectivement pour certains des acteurs de la commune, pour d'autres non, des témoins ou voilà. Il y a la figure du socialiste anglais Maurice. Il y a la figure aussi de Élisée Reclus, qui lui a participé à la commune, hein, le grand géographe anarchiste. Et puis il y a la figure de Kropotkine, le prince anarchiste russe que les éditeurs connaissent sans doute, qui lui n'a pas participé directement aux événements, hein, mais qui a effectivement été tout à fait intéressé sur le moment et qui ensuite en a beaucoup parlé. Alors ce qu'elle cherche à faire, voilà, pour terminer cette introduction peut-être un petit peu longue.
C'était une question.
Mais je m'observe, non, il n'y a pas de question, la question arrive. Ce qu'elle essaye de faire, donc, c'est... Mais bon, Quentin, tu me diras si t'es d'accord avec ça. Est-ce que t'en penses en tant qu'historien ? Parce que c'est vrai que c'est une question qui nous laisse un peu perplexes, nous. Ce qu'elle essaye de faire, c'est essayer de voir comment, à partir de ces trois personnages-là et de leur texte, finalement, on peut construire une espèce d'interprétation de la commune et de son imaginaire, et essayer d'y voir justement des enjeux qui seraient toujours actifs, éventuellement, pour nous aujourd'hui. Alors la question, elle va être très courte. En dédicace à Michel, c'est toi, en tant qu'effectivement que historien et voilà de la commune, est-ce que c'est des outils qui t'ont stimulé ou pas? Comment tu lis ça, toi?
Alors bonjour, tout d'abord. Il y a plusieurs manières de lire le livre. On peut le lire en historien, et puis aussi on peut le lire sans être historien. Un des principes de la commune, c'est quand même c'est l'événement qui a été peut-être le plus réapproprié, relu, du moment où il a eu lieu jusqu'au très contemporain. Et puisque l'œuvre d'historien, d'une certaine manière, elle prolonge ce mouvement-là. C'est-à-dire que l'imaginaire de la commune dont elle parle, c'est quand même pas mal son imaginaire à elle. Elle le dit très bien, hein, c'est une perspective benjaminienne, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller chercher dans le passé des ressources possibles pour accentuer les luttes du présent. Alors, chez Benjamin, l'idée aussi de retrouver le passé tel qu'il a été, et elle, il y a vraiment cette...
Benjamin, juste coupe très court, n'est-ce pas ? Philosophe de l'histoire, plutôt marxiste...
Marxiste hétérodoxe.
Hétérodoxe des années 30-40, hein, pour situer auprès des auditeurs.
Ouais, donc, en gros, son idée, c'est d'utiliser la commune pour essayer de nourrir une conception politique du présent. Bon, en ce sens-là, la conception est plutôt sympathique. Elle a parfaitement le droit, c'est pas tellement un problème. Si on me demande comment on réagit en tant qu'historien, ça devient plus compliqué, parce que dans ce qu'elle dit, il y a une partie qui relève de l'imaginaire de la commune, ça en parlera tout à l'heure, réellement, et qui est intéressante parce que ça met en valeur des aspects que les historiens ont tendance un petit peu à négliger, là-dessus elle a raison. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup d'éléments où c'est son propre fantasme à elle qui s'exprime sur la commune. Et là, en tant qu'historien, on peut juste pas être d'accord sur les événements eux-mêmes. Alors, par rapport à la méthode, c'est lié aussi à la méthode. Moi, je suis pas très favorable à jouer le rôle de l'historien de service qui aurait la connaissance des faits. Je les ai pas, c'est tellement compliqué que, bon, voilà. En revanche, ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'elle prend quatre figures, les plus connues, ceux qui ont écrit, pour désigner un événement qui a concerné une ville entière, et beaucoup d'acteurs moins connus qui sont pourtant des acteurs pleins et entiers de l'événement. C'est là où, à mon avis, il y a quand même un premier décalage dans l'analyse qu'on peut faire.
Sur le fond, là, si on essaye, c'est assez difficile à résumer ou à essayer de tailler là-dedans, hein, parce que c'est assez touffu. Alors, par moments, c'est une lecture qui est quand même assez agréable, il faut le dire. Pas toujours, il y a des fois où effectivement le côté tract pour littéraire cultivé est un peu pénible, mais il y a des passages qui sont agréables. Hein. Mais les grands axes, en fait, de l'interprétation qu'elle essaie de proposer, c'est d'abord, si j'ai bien suivi, la dimension très internationaliste de la Commune. C'est-à-dire l'idée de république universelle. Donc elle oppose, alors, de manière un peu rhétorique, hein, l'universalisme républicain. Donc avec cette idée que dès le départ et en amont de l'événement, dans les clubs parisiens, etc., se discutait déjà l'idée d'une espèce de fraternité universelle entre travailleurs, si on peut dire les choses comme ça. Son deuxième axe est un axe un peu esthétique, si j'ai bien compris, on pourrait dire. Alors elle travaille sur, voilà, notamment sur la figure d'Eugène Potier, et puis de Courbet, et puis des assemblées d'artistes de la Commune, alors qui n'étaient pas des artistes effectivement reconnus. Bon, ça, c'est des choses qui sont assez connues aussi, mais qu'elle rappelle, le fait qu'il y avait beaucoup d'artisans décorateurs, donc qui sont considérés comme sous-artistes, et l'idée qu'au fond, alors ça, c'est une idée à laquelle elle tient, visiblement, mais ça, je ne sais pas ce que ça vaut, après, je pourrais en parler aussi, l'idée que finalement, il n'y a pas tellement de programme artistique de la Commune, par contre, il y a l'idée que finalement, d'une certaine manière, n'importe qui doit pouvoir être considéré d'une certaine manière comme un artiste, donc une espèce d'idée de l'art envahissant la vie. Alors la vie publique, il y a des choses, ça que moi j'ai appris, que je ne savais pas, avec les rares éléments de programme qu'il y a eu de ces assemblées-là, c'était effectivement de lancer les artistes à l'assaut des édifices publics pour décorer mairies ou bâtiments officiels, etc. Mais pas seulement, c'est-à-dire que ce n'est pas effectivement uniquement de l'art prolétarien, hein, c'est l'idée... Si j'ai bien compris son idée, l'idée qu'effectivement il y a une transformation de la vie par l'art, en quelque sorte, avec l'idée que chacun finalement est artiste de lui-même. Bon, quoi d'autre? Ben, la thèse plus proprement politique, c'est-à-dire l'idée de communisme anarchiste là qu'elle développe. Alors bon, là-dessus on pourrait en parler sans doute longtemps. Son idée, c'est que à la suite de reclus notamment et de la Commune, se met en place une espèce de forme assez radicale de communisme. Alors évidemment pas marxiste, voilà, hostile à l'État, à toute forme d'État ou d'autorité un petit peu centralisée. Et l'idée, au fond, c'est pas non plus l'anarchisme collectiviste comme il est défendu chez Proudhon, pourtant très influent, si j'ai bien compris, quand même dans le cadre de la Commune. Mais là, on aurait quelque chose qui est plus individualiste, avec l'idée que voilà, on construit une fédération d'individus libres en partant de l'individu, qui va vers une espèce d'abolition de l'État, mais aussi, si j'ai bien tout suivi, du marché et de la monnaie, hein, pure et simple. Donc la forme la plus radicale, on va dire, de communisme ou de communalisme, avec l'idée que bon, ça vient pas de nulle part. Il y a effectivement des modèles anciens, traditionnels, notamment slaves ou russes, donc ça c'est assez connu aussi, notamment chez Bakounine, mais que la Commune met ça en place à l'échelle de la grande métropole moderne qu'est Paris à cette époque-là, et que donc on aurait, d'après elle, une espèce de... Ben, elle finit quand même par finir un programme à la Commune, par attribuer un programme qui lui convient. Alors, rappelle aussi un certain nombre de faits, les dimensions féministes de la Commune, bon, très, très bien. La dimension pédagogique éducative, c'est-à-dire les premiers, la Commune comme laboratoire, effectivement, d'expérimentation politique et sociale. Ça, cela dit, ça a toujours le mérite d'être rappelé, ça, parce que, effectivement, c'est des choses que les gens oublient vite. Donc, l'idée d'une école obligatoire pour les garçons et pour les filles, les premières mesures d'égalité salariale pour les instituteurs, hommes et femmes, bon, tout ça est rappelé, mais effectivement le fond pour elle c'est quand même ça, hein, si j'ai bien compris. Alors peut-être là-dessus quand même, bon, sans effectivement faire l'historien de service, du point de vue des différentes, parce que tu l'as dit, la Commune c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des motivations très différentes, hein, dans cette affaire-là. Il n'y a sûrement pas que des communistes anarchistes dans cette affaire-là. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de manière de réécriture quand même assez un petit peu gênante quand même?
Oui. Bon. pour rebondir un petit peu sur la question, en gros, qu'est-ce que ça m'apprend à moi et où est-ce que, pour moi, il y a des problèmes. Et puis ça amènera à la question du politique, parce que c'est quand même ça le fond du problème. Faut pas se leurrer, le livre il est quand même intéressant. Par exemple, tout ce qu'elle dit sur la critique des historiens, donc elle aime bien se poser, spécialiste de littérature, donc plus ouverte, machin. Bon. Elle force un peu le trait, mais elle n'a pas complètement tort quand elle dit en gros que la Commune a été soit enfermée dans une histoire du mouvement ouvrier entièrement tendue vers la Révolution russe et la relecture qu'on a. Là, c'est assez vrai, pendant très longtemps, la Commune a été lue uniquement dans ce prisme-là. Et la réponse républicaine, en quelque sorte, qui a été donnée après, c'est-à-dire de faire de la Commune un moment important dans une certaine histoire de la République, sauvant la Troisième République, comme si ça avait été la bonne version de la République qui avait précédé celle qui allait s'imposer par la suite, mais qui du fait était sauvée par cette existence-là. Elle a raison là-dessus. C'est vrai que quand on arrive en historien sur cet objet-là, on a ces modèles-là qui forcent un petit peu la lecture de l'événement.
On a juste, je te coupe là, mais la dernière émission, on a eu un bel exemple de ça, dans l'émission sur Badiou, où Badiou passe son temps justement voilà, à intégrer la Commune de Paris dans, alors lui c'est sa marotte, c'est la Révolution culturelle, hein, les auditeurs s'en souviendront, et donc avec ce fameux épisode de Lénine, voilà, oui, 64e, 74e,
mais pour elle aussi, dansant sur la glace.
Dansant sur la glace, ça y est, on a dépassé effectivement le délai
elle prend moins
de survie de la Commune.
Il faut savoir que les communards ne savaient pas que Lénine allait danser sur la glace. C'est un peu le problème. Alors, deuxième chose intéressante, c'est un peu une tarte à la crème, mais de fait, ça vaut le coup d'être rappelé quand elle dit que c'est un événement intempestif, discontinu, désordonné. Le paradoxe de l'ouvrage, c'est qu'elle explique très bien que les gens ne peuvent pas avoir d'idéologie à ce moment-là, parce que c'est un événement, il y a une guerre contre la Prusse juste avant, il y a une guerre civile avec Versailles à côté, c'est une ville en siège, donc effectivement c'est des pratiques un peu compliquées en actes, où pensée et réalisation concrète se mêlent un petit peu. Donc c'est paradoxal qu'après elle en tire un programme aussi clair, alors qu'elle-même elle commence en expliquant que finalement il y a de la place pour tout dans la Commune. Ce qui est intéressant par exemple pour un historien, c'est ça, c'est que les historiens ont tendance à dire que la plupart des projets mis en œuvre par les élus de la Commune, parce que c'est-à-dire qui sont les communards, elle parle essentiellement des élus ou des gens qui ont la parole, n'ont pas abouti. Par exemple, il y avait un très beau projet de justice fondé sur l'égalité par Eugène Proto, il n'a pas le temps de le mettre en place. Même chose pour l'école. Et c'est vrai que ces notions d'imaginaire, en disant en gros, voilà, bah, évidemment, en 72 jours, ça n'a pas pu se mettre en place, mais qu'est-ce qu'ils avaient en tête avec cette notion d'éducation nouvelle, etc. Regardez les enjeux qui étaient présents et qui ont une longue histoire, et c'est vrai, on pourrait remonter jusqu'en 48 et même auparavant. Ça, c'est un vrai acquis. Moi, j'ai redécouvert en réalité l'importance de ce programme éducatif qui est bien réel. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, il y a comme une vertu à cette approche fondée sur l'imaginaire et sur l'événement de façon un petit peu discontinue. Alors, maintenant, là où c'est plus problématique, c'est un peu sur tous les autres aspects. Sur la République universelle, oui, elle a raison, c'est-à-dire que la Commune s'est prétendue comme une illustration de la République universelle. Mais c'est celle qu'on avait déjà en 89, c'est celle qu'on a déjà en 48, donc c'est une République universelle qui n'a aucun problème avec le nationalisme en réalité. Les deux vont très bien ensemble. Le nationalisme comme quelque chose de fermé, resserré sur l'État-nation, c'est quelque chose qui se sédimente d'ailleurs un peu à l'issue de la Commune.
Après, il y a l'aspect des troupes étrangères, coloniales, ouais, etc., dans Paris, mais alors... qui est souvent mis en avant pour montrer effectivement cette espèce
de dépassement. Moi, je travaille là-dessus. En réalité, les troupes étrangères sont très importantes juste avant, c'est-à-dire pendant le moment républicain au 4 septembre. Là, il y a une armée qui s'appelle l'armée des Vosges, qui est dirigée par Garibaldi. Donc là, j'étais dans les archives hier là-dessus, donc je peux en parler. 5000 étrangers, effectivement, sont dans cette troupe, c'est énorme. Essentiellement des Italiens. On retrouve des Uruguayens. Il y a quelques volontaires algériens, parmi lesquels des Français déportés, mais aussi apparemment, mais ça reste à voir, des indigènes. Voilà, il y a cette troupe très riche avec des Espagnols aussi, des Américains, des Chinois apparemment, beaucoup de Polonais, et qui mènent une guerre façon guérilla, guerre des partisans, au point de gêner assez fortement l'état-major français. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, cette armée des Vosges, elle est démobilisée en février, il n'y a plus personne en mai, et sous la Commune, en réalité... Ils ne sont pas si importants, le nombre d'étrangers. Il y a ce qu'on appelle des légions étrangères. Donc, vous avez une légion belge, une légion italienne, une légion polonaise, assez active. Mais quand on regarde dans les troupes de la garde nationale, en réalité, c'est surtout des Parisiens. Et de fait, beaucoup des étrangers sont des gens qui sont étrangers, qui habitaient déjà sur Paris. Ce n'est pas tout à fait la même chose que des gens qui se mobilisent pour venir faire la guerre au nom de la République universelle. Ceux qui sont dans ce cas-là, et ce qui est vrai, sont les généraux en réalité. C'est Dombrowski, c'est Cluseret, c'est leur état-major. Donc c'est les plus visibles. Donc de fait, il y a bien cette dimension-là de République universelle, c'est-à-dire c'est des gens qui ont combattu en 48 pour la guerre de sécession américaine, pour la guerre de libération italienne, parfois pour les Fainéants irlandais. Donc c'est des gens pour qui la République signifie la liberté des peuples, quoi. Donc cet aspect-là, il est réel. Après, quand elle explique que le mot patriotisme, on ne le trouve pas sous la Commune, Là, il faut quand même vraiment le faire exprès. Dans la garde nationale, on ne parle que de ça. Elle prendrait juste Delescluze, qui est un Jacobin Bontin, le mot est tout le temps là. Donc c'est juste que le travail n'est pas très bien fait en réalité. D'une part, il y a un patriotisme qui n'est pas en contradiction avec la République universelle. Et d'autre part, il y a un patriotisme franchouillard qui s'oppose à ça. C'est-à-dire, quand Dombrowski devient général en chef des armées de la Commune, il y a des troupes qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on le sait, c'est qu'ils ont été obligés d'afficher « On fait venir Dombrowski au nom de la République universelle » pour convaincre une partie des troupes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça.
Après, là, c'est une question, enfin, sur ce point-là, qu'est-ce qu'on peut en dire exactement ? Parce que, alors, je partage complètement ce point de vue-là. En fait, tu as parlé de Delescluze, mais tu vois, des gens qu'on parlait tout à l'heure aussi, des gens comme Rossel, ou des gens comme ça, qui sont des acteurs importants, qui ont des missions, des responsabilités militaires importantes, et puis qui laissent leur peau, quoi, dans cette affaire-là. Hein, c'est pas, ils sont pas là par hasard. Donc, effectivement, il y a des républicains convaincus, il y a des patriotes convaincus, tu l'as dit. Alors, est-ce que si, après, je me fais l'avocat du bouquin, cette idée-là, est-ce qu'elle a pas de sens ? Dans les appels de la Commune, c'est-à-dire que toi, c'est effectivement, c'est quoi lorsque la Commune de Paris, cherche à s'installer, parce que d'une certaine manière, elle cherche bien à s'installer. Elle s'adresse à qui ? C'est-à-dire, elle espère des communes dans les grandes villes de France, au-delà peut-être. C'est peut-être comme ça qu'il faut essayer de comprendre ce qu'elle essaie de suggérer, c'est-à-dire que l'idée que ça se pense pas comme un État, quoi. Voilà, c'est pas un État républicain qui commencerait à établir des relations diplomatiques avec d'autres États républicains. C'est plus compliqué.
Ouais, c'est un peu plus compliqué quand même.
D'accord.
La réponse, je donne d'abord la réponse et puis après la façon dont je vois les choses, parce qu'évidemment la bonne réponse, c'est que c'est en fait quand la Commune se fait écraser. Les Versailles la décrivent comme un ramassis de cosmopolites, et c'est à ce moment-là que cette idée de république universelle, qui était déjà présente, devient un emblème dont vont s'emparer notamment Marx, qui devient célèbre. Après, il faut rappeler que avant la Commune, il est célèbre au sein de l'international, mais ça devient une figure mondiale à l'occasion de la défense de la Commune, avec son magnifique texte sur la guerre civile en France. Et il l'écrit d'ailleurs dans des journaux anglais, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a effectivement une dimension internationale de l'événement.
Mais
la,
après,
la notion
après.
De république universelle, c'est-à-dire la Commune comme moment d'association de toutes les luttes de l'avenir, ça se précipite réellement au moment où elle se fait massacrer et où elle est désignée par les nouveaux vainqueurs de l'ordre comme l'abomination ultime, c'est-à-dire le mal absolu, une internationale communiste qui menace la civilisation. Et sur cette base-là, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cet ordre nouveau voient dans la Commune, et ils ont raison, une ressource disponible. Et c'est ce que fait encore Christine Ross. Maintenant, comment ça se passe pendant l'événement ? Encore une fois, il faut imaginer la Commune, pour le coup elle a raison, tout explose, ça explose très lentement à partir du 4 septembre, et tout explose le 18 mars. Donc les chefs de la Commune ne contrôlent pas grand-chose en réalité. Quand ils donnent un ordre, ça ne va pas d'un seul coup dans le 8e arrondissement, dans le 20e arrondissement. Le programme éducatif dont on parlait tout à l'heure, en réalité, ils suivent le mouvement. C'est-à-dire que dans les mairies, les gens virent les institutrices, les religieuses, mettent des gens à la place, ont leur programme plus ou moins bien bricolé, et puis eux, ils se débrouillent avec ça, en fait.
C'est un cas très très classique dans plein de révolutions.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait,
on légalise ce qui est en train de se passer plutôt qu'on donne des ordres.
Ouais, donc on a une succession de micro-lieux comme ça, donc en fonction de là où on cherche, on trouve là un regard très localiste, d'autres ailleurs un regard plutôt internationaliste. Bon. Maintenant, il y a un délégué aux affaires extérieures qui s'appelle Pascal Grousset, sous la Commune. Alors, affaires extérieures, ça désigne la France, mais ça désigne aussi les pays étrangers. Et il est assez ambigu parce qu'en fait, il essaye de nouer des relations diplomatiques.
Alors, il s'adresse à qui, du coup ?
Il s'adresse aux représentants diplomates qui sont encore sur place à Paris. Parce que la plupart ne sont pas partis au 4 septembre. Il envoie un petit courrier en disant, au nom du peuple de Paris, je m'adresse au peuple colombien. Il y a un papier qu'on retrouve comme ça aux archives de Paris, qui est envoyé aux représentants. Alors, il y en a un, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est le Chilien, qui répond, et ça crée un incident diplomatique auquel Versailles est obligé de répondre. Donc en fait, c'est un peu ambigu. De la même manière, quand la lutte a lieu contre Versailles, ils essayent de se faire reconnaître comme des combattants, c'est-à-dire comme des belligérants. C'est-à-dire comme si c'était un État opposé à un autre État. Et l'argument qu'ils vont mettre en œuvre pour ça, c'est de dire, nous, on respecte la Convention de Genève. Donc, il y a plusieurs manières, en fait, d'une certaine manière, d'être international à ce moment-là. Donc, ce qui est vrai, ceux qui s'inscrivent dans le cadre de la République universelle se vivent dans la continuité de toutes les luttes de libération nationale, plus de ce qu'a mis en œuvre l'international à ce moment-là, qui est déjà une réunion de toutes les luttes sociales dans les années 1860. Ça, c'est vrai.
On va faire une pause musicale, et puis on se retrouve juste après. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et ce soir, donc, nous vous parlons d'un livre violet, un livre de Christine Ross qui s'intitule L'imaginaire de la commune et qui a été édité par la Fabrique. Voilà, je m'adresse ici à certains sceptiques qui doutent de la qualité de la programmation musicale.
Il faut les
bâcher un peu. Et là, ils viennent d'entendre un morceau de Louise Michels, des Louise Michels, qui s'appelle Julot et qui est un excellent morceau, très très beau, que seuls des oreilles barbares ne peuvent pas apprécier.
Oui, ou un peu novice, quoi.
Un peu novice, oui. Ou alors de l'Est. Ouais. Mais, voilà, bon, c'est normal. Hein, ça, c'est... On ne peut pas être ouvert à tout. Hein. Il y en a qui sont ouverts à la beauté de certaines gouttières ouvragées de façon artistique et qui n'entendent rien à la musique. C'est comme ça, c'est pas grave. Nous allons reprendre après ces privés de jokes avec en parlant toujours de ce livre violet. Voilà, donc Christine Ris, l'imaginaire de la commune. Alors, Quentin, je t'ai interrompu tout à l'heure. Tu étais en train de développer un truc donc, sur cette espèce d'idée de république universelle qui serait cristallisée surtout. Après l'écrasement de la commune, et là tu voulais aborder d'autres thèmes, je crois, comme qu'en est-il du féminisme des communards qui seraient vantés par Christine Ross, par exemple.
Merci. Oui. Alors juste pour terminer l'idée précédente, en plus de tous ces projets internationalistes, il faut bien voir que pour les Parisiens, à Belleville, à Charonne, dans le deuxième arrondissement, ces notions-là sont quand même très 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 lointaines. On essaie de recomposer une vie commune pour de vrai, réellement au ras du sol. Et la République universelle, ça paraît comme quelque chose de pas très essentiel en réalité aux enjeux immédiats du présent. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de faire de la commune une espèce de modèle de ce qui sera un petit peu ce que Anderson avait appelé les bannières de la révolte, de l'anarchisme dans les années 1880. Le féminisme. J'y viens.
Elle en parle.
Alors, elle en parle beaucoup, c'est une vieille idée, plutôt sympathique d'ailleurs, selon laquelle la commune serait un moment privilégié, en quelque sorte, pour la mise en place d'une égalité entre les hommes et les femmes. Alors, c'est d'une part, c'est pas spécifique à la commune. Hein. On a déjà ça pendant la Révolution française, on a déjà ça en 48. On a ça à la limite là-dessus. La commune s'inscrit plus dans la continuité de ce qu'il y avait avant.
Et en règle générale, ça finit mal, un peu comme Olympe de Gouges.
Ouais, mais ça a même, à la limite, ça a même déjà pas très bien commencé. Elle donne un exemple qui est très juste, c'est celui de l'union des femmes. Et de fait, ce qu'ont fait les femmes pendant la commune, c'est qu'elles ont tenté d'organiser elles-mêmes le travail. Et pour elles, c'était là que se jouait la possibilité de création d'un monde autre. C'était pas dans l'obtention du droit de vote, mais simplement dans la mise en œuvre de rapports de travail beaucoup plus justes et égalitaires. Là-dessus, elle a raison. Maintenant, si les femmes n'ont pas le droit de vote, c'est pas seulement qu'elles l'ont pas demandé, c'est qu'on leur a pas donné du tout. D'une manière générale, la barrière homme-femme reste très forte. Au combat, les femmes sont des cantinières, des vivandières. Il y a bien que Louise Michel qui, dans le feu de l'action, au moment où les troupes marseillaises entrent dans Paris, qui prend les armes. Il y a quelques femmes aussi qui les prennent à ce moment-là, mais dans l'armée de la commune, les femmes restent à des places qu'à l'époque on qualifie de féminines. Plus clairement encore, les seules fonctions publiques auxquelles les femmes ont accès, c'est celle d'institutrice. Mais vous ne trouverez pas de femme commissaire de police, pas de femme receveur des postes, pas de femme maire d'arrondissement, bon bref. Donc la barrière de genre reste quand même assez forte. André Léo disait que c'est une révolution qui s'est faite sans la femme. Donc ça c'est un peu l'ambiguïté, ça dépend d'où l'on parle. Par rapport au 19e siècle, il y a une ouverture pendant la commune dans laquelle certaines femmes se sont engouffrées. Elles ont réussi à créer des espaces d'action qui n'existaient pas auparavant. Mais de là à faire de la commune un moment féministe, c'est quand même largement faute. Par ailleurs, ce qui me gêne un tout petit peu dans cette affaire, c'est qu'on cite souvent les mêmes, Elisabeth Métrieff, etc. Et l'Union des femmes, c'est plus de 300 femmes. On oublie souvent Nathalie Lemel, qui est moins connue, mais qui est une relieuse parisienne. On oublie les figures un peu moins glorieuses, qui sont sans doute plus intéressantes, ou en tout cas plus actives sur le terrain. Ce qui me gêne un peu dans l'ouvrage, c'est qu'elle parle quand même que des élites, en réalité.
Alors, j'ai une question encore pour peut-être défendre le bouquin, mais voilà, parce que c'est le jeu. Est-ce que là, du coup, on peut pas essayer peut-être éventuellement de donner sens à ce qu'elle dit, à son interprétation? Si tu prends alors un découpage qui est pas celui effectivement de la commune stricto sensu, c'est-à-dire de l'événement commune ou de voilà des quelques semaines là, mais est-ce que effectivement, alors c'est un peu comme l'internationalisme que tu évoquais là. Est-ce que du coup, de manière rétrospective, finalement très vite, est-ce que ça ne vient pas pour le coup dans le mouvement ouvrier ou au-delà ou à l'international, quelque chose comme un emblème qui peut éventuellement avoir cette dimension féministe parce que figure de Louise Michel, etc. Dans quelle mesure ça, c'est, on pourrait soutenir un point de vue comme ça?
Alors, d'après toi, pour le coup, je suis moins spécialisé. J'avais travaillé sur l'action des femmes sur la commune, mais je connais moins cet aspect. C'est l'impression que j'ai, c'est que c'est plus vrai avant qu'après, pour le coup, c'est un peu le contraire. Ouais. Avant, dans le cadre de l'international, de la première internationale, il y a beaucoup de discussions là-dessus, et certaines femmes peuvent être internationalistes. Après, le mouvement ouvrier tel qu'il se recompose dans les années 1880 est quand même beaucoup plus. C'est pas pour rien que les femmes se sont plus investies dans l'anarchisme. Hein. C'est que le mouvement ouvrier tel qu'il s'est recomposé dans les années 1880 était quand même beaucoup plus fermé à ces questions-là qu'il était dans les années 1860. À la limite, c'est encore plus ouvert dans les années 1840, c'est dans les premières formes de socialisme qu'on a qualifié d'utopique, mais qui en fait était très, très concret, où là, la question des femmes est posée de façon beaucoup plus claire, avec d'autres enjeux que le seul cas du travail, la question des émotions. Enfin, ils essaient de construire un monde autre avec plus que simplement du travail. À la limite, c'est presque un reflux qu'on a après. C'est surtout à partir du moment où on a un renouveau des luttes féministes dans les années 60-70 qu'on redécouvre la commune, et notamment la figure de Louise Michel, comme un moment féministe. Donc là-dessus, elle n'a pas tort. On redécouvre des choses qui sont vraies. Les femmes ont pu s'organiser, Louise Michel a bien été en place, Jules Alix a bien prôné l'égalité, etc. Et après, il y a une exagération, c'est que c'est quand même un événement du 19e siècle, en ce sens-là, la barrière de genre restait quand même beaucoup plus forte. Enfin, je le vois comme ça.
Sur la question du programme politique encore là.
Ouais.
Alors c'est effectivement, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement peut-être un défaut principal du bouquin, même si ça le rend aussi sympathique parce qu'on aimerait bien pour plein de raisons et y voir une espèce d'expérimentation de ce communisme libertaire ou anarchiste là dont qu'elle évoque là. Alors elle couple ça, hein, ça on en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on a évoqué Kropotkin tout à l'heure, mais elle essaye d'essayer de, alors pas complètement convaincant cette affaire-là, je trouve, mais elle essaye en fait de lier cette interprétation de la commune à aux travaux finalement de biologie naturaliste, pourrait-on dire, de Kropotkin, avec cette grande idée de Kropotkin que finalement le moteur de l'évolution des espèces, de l'évolution du vivant, ce qu'il en fait une espèce de loi de la vie en quelque sorte, c'est pas la sélection naturelle telle que par exemple le pensent les certains interprètes de Darwin et avec tout le mouvement du darwinisme social qui se met en place au 19e, mais au contraire c'est l'entraide, et que c'est que effectivement par l'entraide et donc par la solidarité entre vivants, mais à l'intérieur d'une espèce, hein, c'est une thèse qui est quand même très très abstraite chez Kropotkin, que finalement l'espèce évolue et puis que l'hypothèse d'un progrès du vivant peut être soutenue. Alors elle appuie ça effectivement, ce qui est pas c'est cohérent.
Un progrès du vivant, c'est que la survie d'une espèce est beaucoup plus garantie par la coopération que par la concurrence entre les individus.
La survie et le développement, t'as l'idée t'as quand même
un progrès.
Bon, il fallait regarder ça, mais l'idée, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le communisme anarchiste qu'elle attribue à la commune, de manière peut-être un peu hâtive, mais ça tu vas nous en dire un peu plus, elle le lie à ça, quoi, cette espèce de vision d'une espèce d'entraide un peu universelle, mais alors cette fois entre les vivants, qui serait donc opposée, qui serait une espèce d'autre imaginaire, pour le coup, d'autres conceptions, opposée à l'idée d'une lutte pour la vie, de la sélection naturelle et de la concurrence, qui serait du coup plutôt associée aux sociétés autoritaire, marchande, capitaliste, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je ne suis pas certain que beaucoup de communards, y compris d'ailleurs dans les états-majors, aient lu Kropotkin ou aient même raisonné à partir de ces catégories-là.
Non, en plus, l'entraîne qu'il écrit beaucoup plus tard.
Oui, alors c'est toujours son histoire, c'est-à-dire qu'elle se met pas pas à la chronologie. Donc si les idées sont déjà dans l'air d'une certaine manière, elles n'ont pas besoin d'être publiées pour être actives. Mais est-ce que même si on met de côté cet anachronisme-là, ça peut faire sens ou quoi après toi?
Bah, tu l'as dit, c'est justement, encore une fois, elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut. Hein, c'est-à-dire que faire de la commune cette vision plutôt sympathique du... Alors effectivement, c'est pas progrès, hein, c'est plutôt un développement autre. Très bien. Ce qui va pas, c'est qu'elle prend Kropotkin reclus. Alors reclus, évidemment, c'est le meilleur. Hein. Oui. Il est parfait, quoi. Il est parfait, oui. Il est géographe, il est intelligent. Oui. Sur le plan politique, il est clean, il fait aucune erreur.
On en reparlera dans l'émission.
C'est le héros parfait. Il y en a deux, trois comme ça sur la commune. Varlin, Malon, reclus, c'est pas très compliqué de... Oui. Bon, on en trouve d'autres qui sont moins sympathiques. Hein.
Oui. Ouais. Il faut le dire quand même quand il y a des...
Oui, ça fait partie de... Oui, reclus, on a du mal à les trouver des défauts. C'est vrai, donc elle choisit les bons, quand même. Maintenant, elle voit en eux, à juste titre, des gens qui ont fait des propositions alternatives sur la conception de la société, notamment en mettant en valeur les notions d'entraide, de solidarité, plutôt que la concurrence et la question de la survie des espèces. Le lien avec la commune, elle ne le démontre pas. Donc, est-ce que la commune les a vraiment marqués au point de modifier tout leur système de pensée, ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit aussi d'avoir une évolution intellectuelle à eux? Là, je suis pas très convaincu. Elle fait le lien pour les besoins de sa démonstration, mais en réalité, l'administration de la preuve est très pauvre. Alors, comment ça se passe maintenant sous la commune? Encore une fois, elle a été réappropriée de multiples manières. Elle s'inscrit un peu dans le sillage de ce qu'avait fait Lefebvre dans les années 60-68, c'est-à-dire la version effectivement plutôt libertaire de la commune. Comment moi je la vois en tant qu'historien? Faut se méfier en fait de les historiens, parce que les historiens, ils ont tendance toujours à trop rabattre. C'est pas ci, c'est pas ça, donc du coup on a toujours quelque chose qui est un peu décevant. Je pense qu'il faut montrer au contraire l'espèce d'élan dans lequel a été pris l'événement communard. Mais qui a un problème politique sur la commune? Elle parle essentiellement des élus, de ceux qui écrivent dans les journaux, et là on le sait très bien, il y a plusieurs programmes concurrents, elle le dit très bien. Il y a d'un côté les Jacobins, les Prodoniens, les Internationalistes, les Blanquistes, les Collectivistes. Tous sont plus ou moins fermes sur leurs appuis, et grosso modo, ils trouvent un espèce de point commun comme ça dans l'idée d'une opposition à l'État et de proposition de formes alternatives de l'échange. Bon, encore une fois, c'est pas eux qui font la commune. Eux, ils donnent une impulsion, ils donnent le ton. Mais l'intérêt, c'est ce qui se passe au niveau des quartiers. Et c'est là où c'est intéressant en réalité pour les libertaires comme Lefebvre. Alors comment ça se passe dans les quartiers? Il faut imaginer, c'est une ville qui traverse une crise politique, qui est en situation de guerre et qui vit une révolution. Donc on a un peu tout ça en fait, en réalité. Vous allez avoir des gens simplement qui essayent de survivre et qui vont développer des stratégies de survie assez classiques. Et de l'autre, on va avoir, notamment dans les quartiers les plus ouvriers, des formes d'auto-organisation extrêmement intéressantes. Avec une idée assez simple, qui est au fond qu'on ne peut pas mettre en place une république, c'est-à-dire une forme politique, sans changer la forme économique, c'est-à-dire sans changer les rapports de l'échange. D'où ça vient, ça? Ça vient de l'expérience de 48, en fait, c'est-à-dire le grand programme, c'est celui de la République démocratique et sociale.
La sociale.
C'est surtout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est mobilisé spontanément, c'est pour ça qu'on a cette histoire de mandat impératif, c'est pour ça qu'on a la mise en place. Alors, elle dit que c'est du collectivisme, c'est pas du tout du collectivisme. En réalité, c'est la forme de l'association. Dans son format de 48. L'idée, c'est que si les producteurs et les consommateurs se regroupent en association et mettent en œuvre un programme d'échange plus juste, sans spéculation, sans banque et sans personne qui tire profit entre les deux, on aura une société beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus juste. Ils ne sont pas du tout opposés à la propriété. Hein,
C'est un mouvement coopératif.
Oui, alors c'est un peu plus que ça, parce que l'enjeu au final, c'est quand même vraiment une transformation radicale de tous les rapports sociaux. Donc c'est vraiment le problème de l'association, version 48. La meilleure définition, c'est dans la déclaration 19 avril, hein, qui dit qu'il faut universaliser le pouvoir et la propriété. Voilà, en fait, tout est là. Programme à la fois vague et très vaste. Le pouvoir est partout. Donc ceux qui le tiennent ne le tiennent pas longtemps, ou le tiennent au nom des citoyens qui eux-mêmes ont une parcelle du pouvoir immédiat. Et la propriété, tout le monde doit y avoir accès. Il ne s'agit pas du tout de la mettre en collectivité. Donc le programme, il est beaucoup moins ferme, beaucoup plus flou. On a un mélange de références à la Révolution française. C'est-à-dire qu'on va à nouveau casser les églises, détruire les figures de la Vierge, sortir les saints des catacombes, enfin il y a tout ça. Il y a des programmes de survie assez classiques en situation de conflit, on essaie de sauver sa peau. Et puis il y a la mise en œuvre de ce qu'on appelle la République concrète, par en bas. C'est pour ça que la dimension universelle, on n'est pas opposé, mais c'est pas non plus la visée première, qui est une République juste. Qu'on essaie de réaliser un petit peu au niveau du bout de quartier. Donc c'est pas vraiment un programme politique, c'est pas une idéologie, mais d'une certaine manière, je trouve ça plus intéressant. Là-dessus, je trouve l'historien plus intéressant.
Alors, ouais,
on va faire une pause musicale, histoire de vous casser les oreilles. Et on revient juste après, pour parler du livre violet.
Plus de murs et de menaces de mort pour faire taire nos promesses de guerre. Clore le débat ou tirer au clair ce qu'enfale chez la porte et projette de faire. Transport puis transfert de fond du nord au sud de l'hémisphère. Et quand le chlore se confond à l'atmosphère, j'ai bien peur que la paix ne puisse se faire. Et s'ils continuent à faire de nous des pauvres et des détenus, à nous lâcher leurs fauves sans retenue, je crois que ma mission sera maintenue. Et s'ils continuent à faire de nous des pauvres et des détenus, à nous lâcher leurs fauves sans retenue, je crois que ma mission sera maintenue. En falche, c'est la rage quand la France parle en bleu, blanc, rouge. Un cortège sans privilège, mais pris au piège d'un sortilège, écartelé jusqu'au cartilage, au milieu des barbelés et des barrages. Mais quand la proie se trouve dans les parages, on s'aménage une place de choix au démarrage. Mais s'ils continuent à faire de nous des pauvres et des détenus, à nous lâcher leurs fauves sans retenue, je crois que ma mission sera maintenue. Et s'ils continuent à faire de nous des pauvres et des détenus, à nous lâcher leurs fauves sans retenue, je crois que ma mission sera maintenue. Dernier couplet et dernière rime pour situer la scène du crime. Écrire ma colère et mon spleen, ma haine de la discipline. J'ai la tête pleine, la vengeance plane autour de mes pylônes et ma zone. Je suis devenu aussi infâme que ma faune. Et dans la violence je m'affirme. Et s'ils continuent à faire de nous des pauvres et des détenus, à nous lâcher leurs fauves sans retenue, je crois que ma mission sera maintenue. Et s'ils continuent à faire de nous des pauvres et des détenus, à nous lâcher leurs fauves sans retenue, je crois que ma mission sera maintenue. En falche, que de la haine, pire qu'un leitmotiv, une façon de vivre. 2003, 1, 2004, 1, 2005, 1, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, en fâche.
Ils ont tout gardé.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Donc nous parlons du livre violet de Christine Ross qui s'intitule L'imaginaire de la commune et qui a été édité chez La Fabrique. Voilà, donc avec Quentin Delhermoz et puis Jean-Mathias et José au platine et moi-même Michel pour faire le bouffon. Donc Quentin, tu voulais enchaîner sur quoi pour cette dernière partie?
Je peux recommencer par finir ma phrase précédente, comme ça, ça fera un espèce de rythme assez joyeux.
Ah oui, et vous venez d'entendre un morceau de Cazé.
Oui, voilà. Excellent demain.
Qu'on dédicace à tous les amateurs de
bonne musique.
De musique slave.
Voilà, de musique slave, oui, ouais, tout à fait.
Non, la question était sur quel est le programme politique de la commune. Et ce que je disais, en gros, c'est qu'au fond, on a affaire plutôt à un événement, c'est un moment d'arrachement, où tout est suspendu.
Alors, ça, elle le dit d'une certaine manière. À un moment, elle dit, finalement, la commune, c'est le... Si on peut parler de programme de la commune, c'est un programme de démantèlement général.
Ouais, mais c'est pas exactement la même chose que celle de suspension de relations de pouvoir.
C'est vrai, c'est vrai.
Il n'y a pas de démantèlement. C'est-à-dire que, par exemple, toute l'administration
part... On n'a pas démantelé la banque, déjà.
Non, et puis même, il y a des commissaires de police sur la commune. Ouais. On n'a pas enlevé les fonctions policières. Les gens sont allés s'installer dans les commissariats, sont décrétés commissaires. Alors, l'ont fait de façon plus ou moins révolutionnaire ou plus ou moins conservatrice, mais enfin, le démantèlement n'est pas complet, loin de là. Hein. La préfecture de police reste, ils l'appellent l'ex-préfecture de police. Ça, c'est l'ironie. Ça aussi, c'est un thème important qu'elle aurait pu développer sur la question des artistes. La vraie mise à mal de l'espace symbolique, c'est l'ironie. Tout est moqué avec un rire assez fort. Donc, ce que je veux dire, en gros, c'est qu'on a fait un événement dans lequel beaucoup de choses rejouent. On a
de la Révolution française, de 48, les nouvelles pensées sociales, du patriotisme, des gens qui veulent juste survivre ou gagner un peu de sous. Et je trouve ça plus intéressant de considérer la commune dans cette espèce d'incertitude que de vouloir absolument lui assigner finalement un programme politique qui nous convient à nous, où on aura toujours tort d'une certaine manière. Je le trouve plus fort quand il est comme ça un peu en ouverture, en train de se faire, que si on décide nous de lui plaquer un programme après coup. C'est ce qui me gêne un petit peu.
Alors, il y a par exemple ce que tu dis là, bon, alors, c'est un peu le travers d'une histoire qui n'est pas vraiment une histoire, parce qu'effectivement, ça ne se trimpe pas tellement aux contraintes historiques, qui se voudrait une histoire militante, quoi. Et c'est vrai que là, alors, c'est une des limites, tu l'as très bien dit au début, tu as dit effectivement, essayer de voir quelles sont les ressources aujourd'hui actives d'un événement comme ça. Et donc, effectivement, par le détour d'un imaginaire ou de catégories, peut-être que là, on peut aller chercher des choses. Il y a un point sur lequel, alors, c'est en partie factuel quand même, cette affaire-là. Au début, il y a un truc qui m'a frappé. Elle m'a dit finalement, en réalité, la commune redevient particulièrement actuelle aujourd'hui, mais aujourd'hui vraiment.
Pour Christine Ross.
Pour Christine Ross, parce que en fait, le rapport au travail dans la société où l'on vit aujourd'hui est sans doute plus proche de ce qu'il était au moment de la commune qu'il ne l'a été de l'époque de nos parents. Alors bon, j'imagine qu'elle a derrière le développement d'une espèce de précarité, de crise de la société salariale ou ce genre de choses-là. Alors, est-ce que ça suffit pour effectivement aller chercher des ressources? Peut-être pas complètement. Bon, l'idée est pas inintéressante, mais là c'est pareil, c'est très vite, quoi. C'est très vite et très très rapide. Après, effectivement, comme tu dis, c'est bon. L'avantage du livre, me semble-t-il, avec tous les défauts que t'as signalé et effectivement qui sont bien réels, c'est restituer au moins en partie cette espèce de dimension un peu peut-être pas laboratoire, c'est pas le terme, mais un peu expérimental en tout cas, expérimental et pratique en fait de la commune. Alors bon, l'autre référence, bon, mais ça on en parlait tout à l'heure, c'est le fameux film de Watkins là, qui d'une certaine manière, lui échappe un peu au défaut de Ross, c'est-à-dire qu'il en fait, c'est pas un film tract, il assigne pas de force un programme particulier, mais effectivement on mesure bien aussi là, alors un film un peu fleuve là, La Commune de Paris,
6 heures,
mais où il y a bien cet aspect. Alors, à la fois le côté laboratoire, le côté très concret et pratique, expérimental, et en même temps, il y a effectivement aussi cette dimension un peu anachronique, délibérée. C'est-à-dire, avec ces fameux, si les auditeurs ont vu, ou hein, on conseille, des scènes où effectivement, sur un débat justement sur la question de la nationalité, eh ben, les personnages en costume, s'il vous plaît, vont se mettre à parler de la question des sans-papiers, par exemple. Et il y a évidemment un choix de mise en scène et puis de point de vue. Et là, effectivement, ça, il me semble, c'est beaucoup plus fort dans la. Et alors, on retrouve ça quand même chez elle, il me semble, par certains aspects. Cette espèce d'anachronisme un peu volontaire, mais alors peut-être pas effectivement avec le même bénéfice, on va dire, en termes de.
Et de fait, de ce que vous dites, ça me fait pas mal penser au bouquin sur 68, où carrément, Christine Ross précise dès le début qu'elle n'a pas une démarche historique et qu'elle va parler de. En gros, pour elle, tout événement est une espèce de texte qui est sans cesse remanié. J'ai l'impression qu'il y a de ça, il y a une forme de textualisme derrière. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, l'essence de la commune, c'est comme l'essence de 68, les historiens n'y atteindront jamais, parce que ça échappe, ça a été tout de suite interprété, réinterprété, dès que l'événement a eu lieu. Et donc, il n'y a pas de vraie commune. Et ce qu'on peut faire, c'est faire une espèce d'imaginaire de la commune. Mais l'imaginaire de la commune, de ce point de vue-là, rien que le titre indique que ça peut concerner des auteurs ou des gens qui viennent bien après, puisque c'est ce qu'ils vont faire de l'image ou des images qui leur ont été données de la commune.
C'est l'aspect le moins défendable quand même.
Ouais, mais c'est ça qui me gêne beaucoup.
Ça c'est clair. Après, si tu veux, évidemment, là, de toute façon, on se fait un peu, on essaie de, c'est un principe de charité, quoi. Hein. On essaie de prendre ce qu'il y a à prendre, parce que oui, si tu pousses, si effectivement, si on pousse au présupposé de méthode et sur le fond, on risque de pas être d'accord du tout. Ça c'est clair.
Mais surtout, il y a un problème de contradiction par rapport à ça. D'un côté, elle dit oui, on n'a pas d'accès à la vérité de l'événement, mais en même temps, elle dit qu'elle va trouver quelque chose de plus vrai. Enfin, il y a un problème du rapport à la vérité, c'est-à-dire qu'elle prétend quand même avoir accès à une vérité plus juste Alors, quelle vérité? Enfin bon, ça,
oui,
c'est
une autre vérité.
C'est un peu plus possible.
qu'on a pas encore vraiment défini. Mais...
Et l'autre paradoxe de l'ouvrage, moi je suis d'accord, hein, avec, je suis critique parce que tu me fais venir en tant qu'historien, mon avis. Mais après, un bon bouquin qui sort sur la commune, qui marche bien, qui vend cette image de commune comme laboratoire, c'est parfait. Sauf qu'il y a une contradiction dans son texte entre le début où elle dit la commune est un laboratoire, et ses pages sont très justes, le début, là, la première partie. Vraiment, elle le dit très, très bien. Et puis, très rapidement, c'est plus du tout un laboratoire en réalité, c'est le germe de sa pensée politique à elle. Moi, j'aime mieux la version laboratoire. C'est-à-dire que j'aime mieux les 10 premières pages, quoi. Et après, je me suis un peu ennuyé, à vrai dire. J'étais content de redécouvrir toutes ces figures-là, mais c'est un peu moins convaincant. Alors, sur la question de l'avant-après, c'est pas les rapports de travail. Enfin, quand elle dit, on est plus proche aujourd'hui de... On est plus proche aujourd'hui de cette période-là, c'est-à-dire du second 19e siècle, dans la mesure où on sort d'une période où l'État-nation s'est installé comme une espèce de référence très forte et où on vit dans une société industrielle. On est en train de sortir de ça, sortir façon de parler, mais en tout cas ce sont des catégories qui sont plus aussi puissantes et opérantes qu'elles l'étaient jusqu'au moins les années 50-70. Pas les rapports de travail. La grande différence entre aujourd'hui et les années 1860, et c'est d'ailleurs pour ça qu'est la commune, c'est que les gens, quand ils travaillent ensemble dans le cadre de métiers, avec des cultures qui sont transmises en dehors d'un système d'enseignement, mais au contraire par un apprentissage qui se fait de visu, avec de très fortes résistances à toutes les formalisations. Il y a un très bon travail de François Jarry, j'ai là-dessus, qui le montre très bien, où le coup d'œil, le rapport au sens, etc., c'est un moyen de résister à la mise en mots et à la mise en formule mathématique par les ingénieurs. Et c'est pour ça que la commune est aussi forte, c'est qu'il y a quand même cette ressource du rapport au travail et d'une certaine dignité dans le travail qu'on va défendre, qui est un des moteurs réels de l'action de la plupart des ouvriers sous la commune. Ils sont pas forcément...
Et qui est au cœur d'un truc de la société industrielle moderne, pour le coup.
Ouais.
C'est en ça qu'effectivement, c'est un événement qui est incontournable, si tu veux comprendre,
ouais,
effectivement.
Complètement. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui n'existe plus ou moins, d'une certaine manière. Donc là, ce qui a été perdu, entre guillemets, c'est la puissance du monde des métiers dans les années 1860, qui sont le lieu du premier socialisme, avant que les choses changent un petit peu dans les années 1880. C'est ça qui est intéressant dans la commune, c'est que ça nous fait redécouvrir ce monde-là. Et c'est pour ça qu'il faut de la proximité, il faut aussi de la distance, c'est-à-dire recomprendre un monde... qui n'est plus le nôtre. Je trouve ça aussi important d'une certaine manière que d'aller chercher dans le passé quelque chose qui nous ressemble trop. C'est-à-dire redécouvrir la force de solidarité, de la vie au travail, sans qu'il y ait un problème politique avec tous les grands mots qu'on veut, mais qui au fond fait que quand on est touché, on vient défendre sa dignité. Je trouve ça tout aussi intéressant et tout aussi compliqué à étudier. Alors sur Watkins, la grande différence, à mon avis... C'est que ce que fait Watkins, c'est qu'il crée un film qui vous met dans les conditions de possibilité de la parole communarde. Donc il n'a pas de discours dessus, c'est ça qui est génial en fait. Et c'est là où l'anachronisme est vraiment fort. Donc il utilise l'anachronisme pour nous mettre dans la façon dont probablement la parole s'est libérée sur la commune. Et le spectateur en fait partie puisqu'il est invité constamment par la caméra à prendre part un petit peu au débat. Donc là, l'anachronisme est salvateur, c'est pas du tout le même que celui dont on vient de parler.
Alors voilà, donc nous parlions d'un livre de Christine Ross, L'imaginaire de la commune, publié chez La Fabrique, et puis Quentin évoquait juste à l'instant un film de Peter Watkins qui s'intitule La Commune et qui fait 6 heures, mais qui est bien aussi. Les copains d'Entre Chien et Loup viennent d'arriver, donc on va leur laisser l'antenne, et on se retrouve, je sais pas trop quand, soit dans 2 semaines, soit en septembre, ça dépendra aussi de José et de tout ça.
De plein de choses,
de l'Ukraine, et puis et des livres violets. Voilà, si on se revoit pas, passez un bon été. Au revoir.
De deux noms de Dieu, mon nom est Père Duchêne.
Non, de deux noms de Dieu, mon nom est Père Duchêne.
Mara Fugée, mais venons de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne.